Les échos de la Busserine, tous les derniers jeudis du mois, exceptionnellement aujourd'hui, lundi 27, nous faisons une émission de radio en direct au sein du comité Maméga. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison des familles et des associations et jeter un coup de projecteur sur le directeur de la MFA, Marcelo Schiaparo, qui est directeur jusqu'à la fin du mois. Et on va lui rendre un petit peu hommage. Et ensuite, on parlera un petit peu de l'historique du Grand Saint-Barthélemy, notamment de la MFA. Et j'ai la chance de co-animer l'émission de radio avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Marcelo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer, on va expliquer un petit peu qui nous sommes. Le comité Maméga est une association qui lutte contre l'illettrisme et l'exclusion générale. À la mémoire de Mme Françoise Vega. Françoise Vega est une habitante de quartier qui a beaucoup milité au sein de ce territoire, notamment à Saint-Barthélemy 3 et à la Busserine, et qui a été reconnue ensuite à l'échelle nationale en tant qu'écrivain. Et malheureusement, elle décédera en 76. Et récemment, le 12 avril 2019, on a inauguré trois noms de rue. Je rajoute Jacques Marty et Odette Aragonet, des militants aussi. Jacques Marty, prêtre ouvrier. Et Odette Aragonet, une militante aussi, présidente de l'association de locataires de Saint-Barthélemy 3, ont été inaugurés en même temps. Et voilà, c'était une fierté pour nous, le comité Maméga, dans le cadre d'une action qui s'appelle Mémoire, Identité, Territoire. Si Jean-Pierre, tu peux en dire un peu plus, juste en deux, trois mots. Et après, on va sur la thématique de Marcelo.
Concernant l'action Mémoire, Identité et Territoire, nous nous sommes arrêtés, après s'être arrêtés sur les repères identitaires, sur la population, nous nous sommes arrêtés donc sur l'histoire de ce quartier et bien évidemment, Odette Aragonet, Jacques Marty et François Degas étaient des personnages incontournables de l'histoire de ce quartier.
Merci Jean-Pierre. Voilà, vous pouvez aller sur le site du vivreensemble.org et vous allez voir un petit peu le travail qu'on fait. Voilà. Marcelo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, on va parler un petit peu d'abord. Hein.
Oui, je voulais d'abord remercier quand même le comité de Maméga que j'ai découvert en 2015 quand je suis arrivé ici. Et je vois les formidables travaux que vous faites.
Merci.
C'est un travail de mémoire, un travail auprès des gens. Et je suis heureux de vous avoir connu, de vous avoir eu comme partenaire actif.
C'est idem, pareil pour toi, pareil pour nous aussi. Marcelo, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu vas bientôt quitter la MFA. Voilà. D'abord, avant de te remercier, d'abord ton parcours. Si tu peux nous expliquer
un peu. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique et qui est vraiment un peu bizarre. Hein. Et parce que, vous l'entendez, j'ai un petit accent, je suis d'origine chilienne. Je suis parti du Chili il y a très longtemps. Et pas comme la plupart de mes compatriotes qui sont en France, parce que beaucoup sont partis à la période sombre du Chili et des Pinochet. Moi, je suis parti après Pinochet, mais pas pour la même raison, en fait. Et à l'origine, si vous voulez tout savoir, j'étais un étudiant. J'ai fait une école d'ingénieur au Chili en télécommunication et j'ai eu en fait l'envie de me donner pour les autres et je voulais intégrer une congrégation religieuse des missionnaires pour aller s'occuper des gens qui étaient en difficulté.
Donc
j'ai quitté à ce moment-là mon parcours et je suis venu en France pour me former et devenir missionnaire. Donc j'ai eu une partie de mon parcours en fait en France. Et la deuxième partie de mon parcours en Italie, j'étais à Rome, là où on forme en fait l'élite des évêques français, en fait les prêtres français.
Ouais.
J'étais au pontifical, séminaire pontifical français. Et après, en fait, j'ai suivi mon parcours jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au devenir prêtre. Mais je ne suis pas resté, je suis parti assez vite de l'institution, en fait, pour plusieurs raisons. En fait, il y a des choses que je n'ai pas trouvées très faites pour moi, on va dire. Hein. Je ne me suis pas senti à l'aise et j'avais besoin de plus d'action, peut-être. J'avais besoin aussi d'une famille. Je me suis aperçu, en fait, que je ne pouvais pas rester seul. Et donc, je suis parti de l'institution ecclésiastique et là, je me suis formé en France pour devenir directeur d'un centre social.
D'accord.
Et je passais par plusieurs postes, en fait, avant d'être directeur. J'ai voulu, en fait, toucher des mamans, en fait, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la misère en France, parce que ça existe, la misère en France. J'étais éducateur de prévention, éducateur des rues. J'ai accompagné des enfants qui étaient, et des jeunes qui étaient toxicomanes, des jeunes mamans qui étaient en galère avec des enfants, parfois 2-3 enfants à 18 ans, à 17 ans. Et après, en fait, j'ai poursuivi en fait, mes études et je suis devenu très rapidement en fait, responsable d'abord dans le secteur jeunesse. Après, j'étais directeur d'un service éducatif des foyers des jeunes travailleurs à Lyon.
D'accord.
C'est une institution assez importante. Il y en avait à la fin 5 foyers. J'étais responsable de 800 jeunes, en fait. Et avec des problématiques lourdes, hein. J'ai dû gérer des suicides, des tentatives de suicide, des fugues, des choses très, très complexes. Et après, en fait, j'ai voulu en fait, me consacrer quand même à l'animation, qui était quand même, on va dire, mon métier de base, hein, dans le social. Et là, j'ai pris la direction d'un centre social, d'abord à Lyon, et après, je suis venu à Marseille.
D'accord. Voilà. Et c'est là que tu as postulé à la MFA.
Voilà, j'ai postulé à la MFA, et parce que j'étais déjà dans un quartier prioritaire à Lyon. Donc je connaissais un peu le quartier, on va dire, plus complexe. Et les projets de la MFA, je me suis renseigné avant de venir. Donc, je ne suis pas venu à l'aveugle.
D'accord.
J'ai compris l'importance de cette institution parce que j'ai vu l'historique. J'ai eu des amis marseillais qui m'ont raconté. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'était un peu un challenge pour moi parce que je me sentais tout petit. Hein. Quand on comprend l'histoire et l'importance de la maison des familles, devenir directeur de cette institution, c'est quelque chose. Et je ne me suis pas trompé, parce que quand je suis arrivé au territoire, et j'ai commencé à connaître tous les partenaires, je me sens encore aujourd'hui très petit, hein, je le dis sincèrement.
Juste à parler un petit peu de ton parcours, on va parler un petit peu de l'historique. Je vais passer la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux parler un petit peu avec Marcelo sur l'historique ?
Alors, le contexte de la création de la Maison des Familles, c'était dans les années 70, en fait, à partir de réunions avec Savrin Montarello, avec, à l'époque, il y avait Marie Santofanti, il y avait Myriam Vinotti et Françoise Ega, donc qui militaient justement pour qu'il puisse y avoir un lieu qui puisse accueillir des manifestations importantes sur le quartier. Notamment, il y avait une forte demande de salles pour des manifestations culturelles, pour des mariages, on était quand même assez éloigné du centre-ville, puisqu'à l'époque, il n'y avait que le bus 31.
Il y avait la Sûre aussi.
Après, c'est venu après. Donc, puisque là, je suis avant. La jeunesse, c'est avant la création de la maison.
Avant la création.
Avant la création. Donc, les réunions se faisaient soit à la chapelle Sainte-Claire, soit au centre social de Picon, soit à la maison du quartier La Busserine. Et donc, je me souviens que les opérateurs, les acteurs à l'époque, il y avait Jean-Pierre Daniel. Il y avait donc Jean-Pierre Daniel qui faisait un projet, donc c'est le directeur de l'Alhambra, qui a été directeur de l'Alhambra, et qui travaillait beaucoup autour de l'audiovisuel. Je me rappelle que ma mère, Christiane Ranchich, fait une formation, notamment visuelle, pour pouvoir, parce qu'il était question que ma mère travaille là-bas, et puis en fait, elle est morte en 76. Il me semble que la création de la maison des familles, c'est peut-être un an après, en 77. Voilà, 77. Et ma mère est morte en 76. Donc ça, c'est pour le contexte dans lequel s'est créée cette institution. Alors, donc le premier président a été Maurice Prunetta. Il y a eu Maurice Prunetta. Il y a eu aussi après Huguette Fouquet qui faisait partie donc du conseil d'administration. Et la première salariée a été Christiane Bonnard. Hein. Ensuite, il y a eu Christiane Ranchich qui habitait le quartier, qui habitait au Mail.
Christiane Bonnard qui est devenue directrice aussi.
Qui est devenue directrice tout à fait. Qui était d'abord dans le CA et qui est devenue directrice. Exact. Et ensuite, il y a eu Christiane Ranchich, donc Jean-Yves Pichot. Et puis donc Marcello Chaparro. Donc à cette époque, je te laisse la parole pour voilà.
Concernant Marcello, le travail qui a été fait au sein de la maison des familles, quand on parle de ces personnages-là, qui tu retiens comme personnage ?
Tous, parce qu'en fait, je me suis bien tout de suite aperçu que je prenais en charge une structure, donc il fallait avoir des épaules très larges. Donc je suis allé à la source et j'ai rencontré pas mal de ces gens-là. Donc M. Prunetta, on s'est rencontrés. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnalités qui ont été à l'origine, qui m'ont raconté l'histoire. Et même l'actuel président, c'est Henri-José Delofo. Il faisait partie aussi de ce conseil d'administration, donc il connaît bien l'historique. Donc je me suis vraiment imprégné de l'historique. Évidemment aussi de mon prédécesseur, hein, M. Pichot, qui malheureusement, il est décédé. Et j'ai voulu, en fait, quand j'ai pris la maison des familles à main, non pas faire une rupture, mais continuer, en fait, un travail.
Donc, avant de parler du travail que tu as fait, ça t'embête pas, juste pour que le public retienne quelques chiffres, est-ce que tu peux nous dire quel était à l'époque le budget de la maison des familles, à l'époque, le nombre de salariés et quels étaient les principaux partenaires?
Alors, quand tu dis à l'époque, c'est quand? C'est à l'origine?
Donc, à l'origine, au niveau de la création. Est-ce que tu
as des... Je ne connais pas les chiffres, je sais qu'il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent parce qu'en fait, d'après ce qu'on m'avait expliqué, les projets initiaux, en fait, c'était avant la naissance de la politique de la ville. La politique de la ville n'existait pas. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas tout à fait cette façon de parler, la politique de la ville, ce n'est pas de la politique, en fait, avec des politiciens. Ce n'est pas ça. On appelle la politique de la ville un dispositif qui permet de venir en support aux structures et associations qui sont dans des territoires en difficulté, pour leur permettre de développer des projets innovants. Donc c'est de l'argent, hein, public.
Et il faut rajouter que c'est grâce à ce territoire-là que la politique de la ville a été créée.
Exact, voilà. Parce que je vous dans les projets en fait, initiaux, la mairie de Marseille de l'époque, il a voulu expérimenter un nouveau concept. C'est-à-dire qu'une structure du quartier qui était quand même pilotée par la ville de Marseille à l'époque.
Hein, tout à fait.
On lui donnait beaucoup de moyens. Et c'est cette structure qui devait transmettre ses moyens aux associations de proximité. Donc, on m'a expliqué qu'il y avait des comités, une fois par mois, où tous les acteurs locaux décidaient, avec une décision collégiale, en fait, les fonds qui seraient attribués pour une sortie, un camp, ou des projets comme ça qui se créent dans les territoires. Cette idée, en fait, qui a fonctionné pendant plusieurs années ici, dans les Grands Saint-Barthélemy, a été en fait retenu par les ministères de la ville de l'époque. Hein. Ça remontait
au niveau national.
Et on a mis en place à ce moment-là, avec des règles plus strictes, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville. Donc, la politique de la ville, donc cette aide de l'État, est née grâce aux mouvements qui se sont créés ici, dans les Grands Saint-Barthélemy.
On va faire une pause musicale, Jean-Pierre, et après on revient.
Et puis on veut la boutique à tirer de fond. On veut voir.
toujours en direct, les Écoles Busserines, réalisées et produites par le comité Maméga et Radio Galère. Avec Marcelo Schiaparo et Jean-Pierre Ega, merci d'être là. Coup de projecteur sur la Maison des Familles et notamment sur Marcelo Schiaparo qui va malheureusement quitter la MFA bientôt. Et j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui et de parler un petit peu du travail que tu fais. Et que, voilà, et on parlera aussi des perspectives que tu as mis en place au sein de la Maison des Familles. Jean-Pierre, il y avait un nom qu'on a oublié ?
Oui, effectivement, Marcelo me faisait remarquer à juste titre que nous avons oublié d'évoquer Alain Forcade, qui faisait partie de l'équipe à l'époque de Maurice Prunetta, Cristiano Bonnard. Donc, effectivement, c'est aussi un nom incontournable des opérateurs invisibles, exactement, mais importants de la Maison des Familles. Voilà.
Je reviens par rapport à la Maison des Familles, par rapport au financement. Par qui vous êtes financé, Marcelo ?
Alors, la Maison des Familles, aujourd'hui, en fait, elle a un double agrément. Donc, elle est à la fois centre social, donc à ses titres, elle est financée par la CAF et la CNAF, en fait, tous ces dispositifs classiques des centres sociaux. Mais elle a aussi un agrément et Maison pour tous. C'est un agrément qui est attribué par la ville de Marseille. Et à ce titre, donc, il y a un financement important aussi par la ville de Marseille. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que si on compare, pour mettre des chiffres en fait, au déclassement des financeurs, le principal financeur, ça serait aujourd'hui la ville de Marseille,
d'accord,
suivi par la CNAF-CAF. Mmh. Et après, nous avons des financeurs au titre de la politique de la ville, la métropole, les départements. On a quelques projets spécifiques de la ville de Marseille.
Que la CEGET
pas, oui, voilà, que ce n'est pas de la dispositif Maison pour tous.
D'accord.
C'est à part, c'est la CEGET, qui fonctionne avec la CAF aussi. C'est tout ce qui est centre de loisirs, d'accord, accueil jeunesse. Mmh. Et après, on a l'État, dans le cadre de la politique de la ville. Et on a aussi, on avait autrefois la région, aujourd'hui beaucoup moins présente, mais qui lance des appels à projets qui peuvent aussi financer. Mais concrètement, aujourd'hui, je suis financé par CAF, ville, État, métropole et département.
Est-ce que vous cherchez aussi un mécénat ?
Évidemment. Mmh. Ça ne suffit pas pour essayer de boucler le budget. Mmh. Donc nous, on travaille aussi avec l'OGIREM, qui finance les projets des jardins, une partie, et ICF Habitat, qui finance une autre partie aussi des jardins qu'on a à ICF. D'accord. ICF Habitat, c'est la cité SNCF.
D'accord, ok.
Et on a eu, et chaque année, on essaie de trouver des financeurs privés. On a chaque année pour le forum senior AG2R La Mondiale, qui est toujours fidèle depuis les créations de ces forums, avec un financement important pour ces forums. Et on a aussi des fondations. On a eu Fondation France. Et aussi, actuellement, on a la fondation SNCF qu'on essaye d'aller chercher, en fait.
Jean-Pierre, tu voulais prendre la parole ?
Sur quel territoire intervenait la Maison de Famille autrefois ? Et j'ai mes réponses, mais je souhaiterais que tu nous dises un petit peu sur quel territoire elle était opérée, la Maison de Famille. Par rapport à aujourd'hui, puisqu'il me semble que les choses ont évolué et que malgré les difficultés financières, votre champ d'intervention paraît beaucoup plus important.
Alors, on avait parlé qu'au début en fait, du projet, il avait l'idée de proposer à la population des salles de fêtes. Vous voyez ? Ces salles, en fait, ont été, depuis la création, depuis 40 ans, une offre qui est la Maison des Familles proposée, en fait, à la population du 13e et 14e arrondissement de Marseille. Si on regarde en fait le nom que la Maison des Familles porte par rapport à la ville de Marseille, on nous appelle MFA 13-14. Donc ça porte bien ce nom, 13-14, c'est parce que on était appelé de proposer un service à tous les 13e et tous les 14e en tant que maison pour tous. En tant que centre social, on avait un territoire plus centré sur la cité de la Bénosse, la cité de Fontvert, et un peu les alentours, mais pas au-delà.
Hein. D'accord.
Pas au-delà.
D'ailleurs, tu parlais de services. Quels étaient les services autrefois qui étaient proposés à la population Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à...
Le principal de ce service, c'était les salles. La maison des familles ne fermait jamais. Hein. On avait une ouverture 300 jours sur 306, 360 jours au lieu de 305. Il avait 5 jours de fermeture à l'année. D'accord. Et presque tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche, il y avait des activités parce qu'il y avait des fêtes. Et soit des fêtes familiales le vendredi et le samedi, ou des associations qui pouvaient bénéficier des salles. Et les projets, en fait, les modèles économiques, c'était de proposer un service à bas coût avec une offre élargie, avec une cuisine et une amplitude horaire inégale, en fait. Personne ne peut proposer une chose pareille. Nous, on proposait la salle de 9h du matin à 5h du matin, quoi. Et avec la cuisine.
Effectivement, beaucoup de personnes se sont mariées dans le quartier, beaucoup des anciens habitants, parce que c'était quand même abordable, assez spacieux, et puis il y avait une possibilité de faire de la restauration. Bien sûr. Du coup, effectivement, la maison de famille était très... Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport
Alors,
à ce
il y a un changement radical qui s'est produit avec la nouvelle DSP. Parce que bon, tous les 6 ans, en fait... notre délégation service public, en fait, il doit être redonné. Et pour cela, il y a un appel public, un appel au marché, qu'on dit. Donc, on a des concurrents. Et ça se fait avec des règles du marché et qui sont applicables, en fait, à tout le monde.
Donc, moins de demandes ou moins de possibilités d'accueil ?
Alors, dans ces règles, il n'y a pas la possibilité de louer des salles ou de mettre à disposition des salles à des familles. Donc, chaque année, depuis 40 ans, c'était comme ça la règle. Depuis 40 ans, on avait, nous, une dérogation qui a été accordée par la ville. Et dans cette DSP, cette dérogation, on l'avait négociée.
Pour ceux qui ne connaissent pas DSP ?
Délégation Service Public.
D'accord.
Alors, on avait eu, en fait, un accord négocié pour obtenir, en fait, quand même une dérogation, mais qui, pour des raisons juridiques, ça a sauté plus tard.
Ça a sauté en quelle année ?
Bah, c'est maintenant.
C'est cette année.
C'est actuellement.
Cette année.
Voilà. Cette année, on n'a plus la possibilité, donc je dis aux auditeurs, parce que malheureusement, ils viennent encore nous demander, mais il n'y a aucune possibilité pour mettre à disposition des salles aux familles.
Juste, toujours rester sur le territoire, c'est vrai que dans le cadre de la politique de la ville, la MFA, maintenant, a une cartographie plus élargie.
Voilà. Ça, c'est la deuxième chose qui a changé.
Il y avait aussi, quand même, aussi dans le passé, il me semble, une relation privilégiée qu'avait la Maison des Familles de par rapport à son emplacement avec... Bon, vous étiez donc de l'autre côté de l'avenue Salvatore Allende, qui est maintenant impactée par les travaux de la L2.
Les énormes travaux.
Mais il semble, a priori, le quartier prioritaire était fond vert. Vous aviez quand même un attachement particulier.
On l'a toujours.
Vous l'avez toujours, d'accord.
Oui. Non, nous aujourd'hui, en fait, il y a eu, en fait, depuis 2 ans, une réorganisation de toute la cartographie des centres sociaux de Marseille. Donc, ce n'est pas que nous. Hein. Tout le monde a été impacté. Et dans cette nouvelle cartographie, et la maison de famille, en fait, a pour mission de travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les IRIS. Donc, ce sont des découpements du territoire administratif. Un IRIS, c'est une nomenclature de l'INSEE, hein, donc c'est pour compter les habitants. Et donc, les IRIS de la maison des familles sont Picon Fond Vert et Saint-Barthélemy SNCF, la cité SNCF.
Donc, qui est de l'autre côté de la L2.
À côté, ça touche Fond Vert. Et Fond Obscur. Tout Fond Obscur.
Marcel, juste avant de parler de territoire pour, la nouveauté du territoire actuel, toujours resté dans le passé, en termes de mobilisation, comment ça s'est déroulé concernant les habitants de Fond Vert, notamment comme il a dit Jean-Pierre, la Benosse, voilà, santé.
Alors, la façon de travailler de la maison des familles a toujours été une association... Des proximités. Hein. Nous, on a bénéficié toujours de ça. Déjà, mon prédécesseur, il avait créé, en fait, avec les associations des fonds verts, les collectifs d'associations des fonds verts, qui existent toujours et qui, on l'anime, mais on l'anime sans être un leader, si tu voulais. On est un frère parmi les frères. Et c'est ça un peu la politique qu'on met en place. Et avec ces collectifs d'associations de fonds verts, il y a Femmes, Familles, Fonds Verts, il y a Féminin Sacré, il y a l'association Lina, il y a l'Alliance Savinoise aussi qui est présente parce que, c'est, même si c'est la Savine, mais il y a une habitante qui fait partie,
Rachida
Tir, qui a un magasin à l'art, donc elle s'implique beaucoup pour l'animation du territoire.
CLCV.
Il y a la CLCV, évidemment. Donc elle fait partie de ces collectifs. Mmh. Et ensemble, en fait, toutes ces associations, on arrive à monter des belles actions. Et notamment, je vous invite à venir à la prochaine, qui ça va être le 29 juin, la fête des quartiers, qu'on l'a fait avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de moyens humains. Mmh. Tout le monde met la main à la pâte et on arrive à faire des belles choses.
Alors, force est de constater qu'il y a quand même une espèce de... une ligne invisible quand même par rapport à avant, où je me souviens, pour avoir habité ce quartier très tôt, très jeune, il y avait quand même beaucoup plus de circulation. Mais c'est vrai que l'espace géographique ayant changé, la mobilité n'est plus la même.
C'est difficile. Donc,
la L2 a un peu coupé en deux, a isolé un petit peu davantage la maison des familles. Mais je me souviens que beaucoup d'habitants du quartier, et moi-même et mes parents, donc nous participions à énormément d'activités à la fête. On a dansé donc, sur votre espèce de théâtre extérieur. Ma mère organisait des repas, des manifestations culturelles à la maison des familles. Et c'est vrai que la L2, les travaux ont un peu isolé un peu cette circulation.
Oui, je voudrais, avant de vous expliquer cette partie-là, parce que c'est un vrai problème, parler aussi de la Bénosse, parce que souvent on me reproche que je l'oublie, mais même si dans ma tête je ne l'oublie pas, mais c'est vrai qu'on se centre beaucoup sur fond vert, mais la Bénosse aussi fait partie de nos missions, et chaque année aussi, avec l'association Les Deux Colombes, on organise nous, on vient en aide en fait logistique, mais l'association de Colombes, elle organise les fêtes des voisins, les fêtes des quartiers aussi, les fêtes des fins d'année. Et c'est pareil, c'est une association d'habitants où la maison des familles vient en appui, on va dire, qui produit l'animation. C'est le cœur en fait, et le secret peut-être de notre activité, c'est de faire avec. En fait, on n'est pas là, on n'arrive pas tout seul.
Donc si on regarde bien par rapport à la L2 en partant du rond-point de Sainte-Marthe, en fait vous travaillez plus davantage sur le secteur qui vient donc de la cité SNCF, on remonte vers Fontvert et on va jusqu'à la Benosse. Voilà.
Et après derrière, voilà.
Et derrière
Fontobscur.
Fontobscur, oui.
On va peut-être faire une pause musicale et on se retrouve après. Éventuellement, pour ceux qui veulent nous contacter, vous nous contactez au 09 54 4 38 87 44. Voilà.
Sous un plafond trop haut pour y coller des étoiles, j'avais pendu mes stylos. Ça rend le vide moins banal. Je rêvais de ce garçon quand ma couette décidait de m'engloutir du cou au peton parce que la nuit était tombée. Lui, la voix grave, articulant chaque syllabe, la classe la plus nonchalante qui soit, ses valses me calmaient déjà. J'avais pendu toutes les couleurs, ne sachant pas si mon gangster préférait coucher ses humeurs en rouge, en bleu, en noir, en vert. Lui, l'homme du moment, chantait la femme aux mille amants en caressant sa guitare. Et moi j'avais plus peur du noir. Quand il voudra mettre du vent, chanter son destin de chômeur intermittent, il pourra penser peut-être à celle qu'il voit, gangster vedette. Tous les matins, suivant ses traces, le regard lointain, l'air blasé, j'articulais mon brassens debout sur les cabinets. Quelle meilleure scène pour débuter, surtout qu'en face des toilettes y avait un miroir accroché, je pouvais détailler mes scénettes. Lui, l'homme du moment, chantait la femme aux mille amants, en caressant sa guitare. Et moi j'avais envie de vous voir quand il voudra mettre du vent, chanter son destin de chômeur intermittent. Il pourra penser peut-être à celle qu'il voit, gangster vedette. Je me souviens m'être demandé où il pouvait bien répéter. Il était trop grand pour les chiottes, il serait vu que les fesses et les pieds. Si tu veux bien, Alexis, je te monte d'une étagère, je te mets sur celle des génies qui ont su l'être sans en avoir l'air. Quand tu voudras mettre du vent, chanter ton destin de chômeur intermittent, tu pourras penser peut-être à celle qui te voit, gangster vedette.
Toujours en direct au sein du comité Maméga. Désolé, je rigole un petit peu parce qu'il y a du public ici et tant mieux. Ils sont là et ils écoutent l'émission radio. Les Écolabusserines, réalisées et produites par le comité Maméga et Radio Galère, en présence de Jean-Pierre Ega qui co-anime l'émission de radio avec moi, et Marcelo Chaparro, qui est l'invité, qui est directeur de la Maison des Familles et qui malheureusement va quitter la MFA bientôt. Et voilà, moi j'ai beaucoup de tristesse qui s'en aille parce que j'ai fait un travail formidable avec vous, hein, surtout avec toi, moi Marcelo, tu le sais bien. Je reviens sur la thématique un petit peu et du travail que tu as fait tout au long de ces années-là. Et en même temps, on va parler des objectifs du
premier.
Comment ça s'est déroulé?
Alors, les objectifs, en fait, à l'origine,
tout à fait.
Alors, à l'origine, la Maison des Familles avait été créée pour générer, en fait, une dynamique collective avec les habitants et apporter aussi la possibilité aux habitants de ces territoires-là d'avoir un lieu pour faire des fêtes familiales. Ça faisait un peu l'ADN de la Maison des Familles.
Fait,
c'est pour
fait.
Ça, c'était la seule institution qui avait deux grandes salles. Et tout avait été préparé, conçu dès le départ pour accueillir le public tous les week-ends. Donc on avait un gardien en permanence, on avait plein de choses qui nous permettaient, nous, de ne jamais fermer, quoi. C'était en fait l'un des objectifs, mais pas que, hein. On était quand même une maison pour tous, on avait des services à la population. Donc on était un lieu aussi où les associations pouvaient venir faire des réunions, mais pas que non plus. Ils pouvaient faire que la maison de famille soit son adresse pour un
postal,
hein, pour une association. On a accueilli beaucoup des assemblées générales, beaucoup, beaucoup. Et plusieurs aussi des associations comme la AMO, comme des services assistants sociaux, ils sont venus faire des permanences, il y a eu permanence à l'emploi. À une époque aussi, il y a eu un projet qui est devenu après une association indépendante, un projet en fait accompagnait les colocataires et les copropriétaires en fait des territoires proches. En fait.
Il y a aussi, vous louez aussi des chalets aussi.
Oui, avait un chalet, oui. On avait un chalet et un bateau.
Voilà.
Oui. Qu'on mettait à disposition de la jeunesse et tout ça, en fait.
Et en même temps, quand ils allaient au chalet, ils avaient des équipements de ski aussi, vous avez aussi des
tenues. On avait des skis, des vélos, on avait un atelier vélo. Ouais. Et donc, on réparait les vélos, on faisait des choses avec les vélos. Non, c'était. On avait même un bus de 22 personnes aussi, à un moment donné, qui servait à transporter les gens partout. Et notre gardien, qui était là, qui est parti à la retraite, Jean-Louis, hein. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il nous écoute, mais si jamais il nous écoute, je lui passe le bonjour. Il a resté avec nous plus de 30 ans, hein, 35 ans, je crois, depuis le départ. Et lui, il avait passé son permis pour conduire des bus. Donc, il avait un permis bus. Donc, c'était notre chauffeur aussi. Voilà, donc on pouvait transporter les gens.
Alors moi, je voudrais m'arrêter quand même deux minutes sur ce manque à combler, puisqu'en fait, tu as parlé quand même d'accueillir un public défavorisé avec, pour pouvoir permettre des manifestations familiales à des sommes, à des coûts modiques. Tu as parlé de location de chalets, d'équipement, donc équipement ski pour permettre aux gens du quartier d'aller à la neige pour un week-end avec un bus qui était apprêté, d'ateliers vélo. Je veux dire, c'est quand même des services exceptionnels et je trouve fort dommage et pénalisant pour la population du quartier que ces services-là disparaissent.
Oui, mais ça, c'était une autre époque. Hein. C'était, comme tu dis, c'était peut-être une époque... les moyens que les pensionnaires de famille avaient à cette époque-là...
On les n'avaient rien à voir.
Ah, mais rien à voir. Oui. Absolument rien à voir.
Est-ce qu'on peut parler du simple ou double
Triple, même simple triple. Oui. Non, on ne peut pas... Je ne connais pas exactement les chiffres de l'époque, mais... Les échos que j'ai, c'est qu'il n'y avait pas de soucis. Hein, donc on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on faisait office des politiques de la ville pour les territoires. Donc c'est une volonté politique, hein, je vous dis. Hein, ça, c'est pas des choses... C'est pas une histoire que la maison des familles était mieux placée que d'autres. C'était la seule institution de ces territoires au départ.
Tout à fait.
Et donc, la politique de l'époque, les politiques de l'époque, ils ont mis les paquets... pour qu'une dynamique se crée.
N'oublions pas que
c'est pas du tout la même configuration.
Tout à fait, Marcelo. N'oublions pas quand même qu'il y a toute une génération de travailleurs sociaux qui sont issus de la maison des familles. Je pense à Evelyne et Faouzi Grammy. Oui. Je pense à Bania Mejbar, à Dalila Aïssa, à Zoubida, à des tas de travailleurs sociaux.
Avec l'Azur.
L'association de jeunes animateurs à l'époque de Marie-Jeanne de la Rosière. Ils ont créé une dynamique exceptionnelle. C'était des gens qui étaient formés, qui avaient des compétences en comptabilité, qui savaient faire des fiches de paie, qui avaient des compétences en management, qui savaient driver, organiser, gérer des camps, des sorties, des recherches de financement. Donc beaucoup de jeunes travailleurs. Donc quand on voit ce qu'a été la maison des familles et ce qu'elle est devenue bien malgré elle, on ne peut que pleurer et penser à des jours bénis des dieux parce que effectivement, moi qui étais plus jeune, j'ai bien connu cette dynamique-là et la maison des familles avait un impact extraordinaire. Et quand on parle d'impact sur le 13e, 14e, effectivement, les gens venaient de tout le 13e et 14e. Les gens même trichaient parfois pour pouvoir avoir accès à ses bénéfices, on va dire. De fait, on s'aperçoit que le quartier a été... Alors, on a beau nous mettre une belle L2 qui permet une circulation de l'ouest en est, mais il y a un manque à combler, l'isolement de la maison des familles et puis tous ces services-là. Parallèlement à cela, on a donc une explosion au niveau d'économies parallèles, des drames qui impactent les familles de fonds verts, de la Busserine et des quartiers limitrophes. Donc on s'aperçoit que cette volonté politique qui nous a fait, en tant que grand ensemble, échapper à cela, nous a rattrapés, puisque du coup, changement d'orientation politique, drame humain, en parallèle. Voilà.
Je peux rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux jeunes de la Sûre. C'est important parce que ça a permis à ces gens, à ces jeunes-là, maintenant qu'ils sont adultes, qui sont grand-mères, qui sont parents, quoi, je veux dire.
Professionnels, voilà. Surtout.
Et sur l'aspect professionnel, il y en a qui sont devenus agents de développement à la politique de la ville. Il y en a d'autres responsables dans des secteurs institutionnels.
Éducateurs, voilà, cadre éducateurs, 1.
Voilà. Et ça a permis, ça a permis d'outils. Et ça, c'est vachement important.
Tout à fait. Ça contribue à la formation des premiers animateurs de ce quartier, ceux qui sont issus juste après les investissements de l'éducation populaire, la génération des 40-60 ans.
Là, vous avez dit un mot, en fait, qui pour moi, c'est un mot clé, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. C'est l'éducation populaire, en fait. Qu'est-ce que c'était l'éducation populaire? C'était donner les moyens à des gens pour qu'ils trouvent, en fait, les solutions et la formation nécessaire pour produire des choses. Donc c'était une sorte d'université de la vie, mais qui se faisait avec les gens du territoire. Et ça génère des idées nouvelles. Et quand ils sont appuyés par l'économie, hein, il y a de l'argent qui est mis à disposition, et les idées sont bonnes, ça part. Et c'était les années de l'éducation populaire. Je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est pas qu'ici, hein, donc c'est la, en France, en fait, je trouve que la volonté politique n'est plus dans ces sens-là. Donc il y a d'autres choses qu'on développe. Aujourd'hui, c'est, oui, à juste titre aussi, hein, c'est les travails et d'autres choses qu'il faut développer. Mais il y a, je pense...
Et un ce manque d'éducation qui... populaire, quoi.
Voilà, ouais. On a oublié ça, on a oublié la valeur et les effets que ça a produit autrefois, parce que quand même, et la force de la France, quand je suis arrivé en France, pourquoi je me suis tourné vers ces métiers-là ? Parce que j'étais séduit par l'éducation populaire et les moyens qu'il y avait pour pouvoir former les gens et accompagner les gens sans faire... De l'assistanat, moi je ne voulais pas l'assistanat.
C'était vraiment c'est l'époque des 30 glorieuses.
Hein. Oui.
Exact, donc exact. 60, 70, 80. À partir de 80, 85, les choses ont changé. La volonté politique n'est plus la même. Et 80, c'est quand même Mitterrand. Donc Jacques Lang. Donc après ça, effectivement, notre situation au niveau national, c'est l'économie national, ouais, de la France ayant muté aussi, puisqu'on a parlé des 30 piteuses après, 90, 2000. Donc ce sont les années de
c'est une autre époque. Hein.
De détresse, on va dire, pour la vie associative, jusqu'à ce jour d'ailleurs. Hein. Quels sont les enjeux par rapport à...
Voilà. Il y a des enjeux importants et la maison des familles, en fait, ne s'est pas laissée endormir non plus. Parce que je me considère en fait un directeur qui a dû assumer une transition vers un ancien modèle et un nouveau modèle qui s'impose à nous, hein, mais qu'il fallait absolument le transformer. Alors, dans la nouvelle DSP, en fait, l'une des obligations qui nous demande la ville, et qui n'est pas fausse, hein, je pense que c'est bien trouvé, c'est de proposer des activités en soirée, donc tous les jours, à partir des en périscolaire, hein, à partir des 17-18 heures jusqu'à 20h, 21 heures, y compris les samedis, des activités avec une valeur, certes, des loisirs, mais pas que aussi, une valeur éducative pour la famille. Donc, je me suis saisi de cette idée-là et on a monté un projet qui va se lancer en septembre 2019. Donc, j'invite tout le monde à être très attentif parce que ce n'est pas réservé qu'aux habitants du coin. Nous, on va continuer à élargir 13-14 ans. Donc, on va proposer des activités parents-enfants, des loisirs, style atelier cirque, atelier des marionnettes, atelier théâtre, atelier des danses, danse pour les nouveau-nés aussi. D'accord. C'est une sorte de thérapie, maman et les nouveau-nés pour initiation, en fait, éveil musical et tout ça. Toujours avec cette idée-là de faire que l'enfant participe en activité avec sa famille, avec son père ou sa mère.
C'est une dimension qui est un petit peu différente face aux carences éducatives que l'on constate dans tous les établissements scolaires, dans les maisons d'enfants, ce que côtoient au quotidien les travailleurs sociaux. Quel est l'intérêt de cette association des parents ? C'est un accompagnement à la parentalité, à l'éducation.
C'est pas une association des parents.
Le lien parent-enfant.
En fait, je me suis aperçu, parce qu'on avait un projet expérimental qu'on fait avec la CAF, nous, qui s'appelle « Un parent, un enfant ». Donc au départ, il y avait beaucoup de francs qui se sont dit « Mais non, mais comment je vais pouvoir choisir l'un de mes enfants ? C'est pas juste. J'ai 3 enfants, parfois 4 enfants dans la maison, c'est pas juste. » Et nous, on insistait du fait il aura plusieurs étapes, plusieurs années, et le fait de passer un temps privilégié avec un enfant, ça produit des effets qui sont dilués si on fait toujours des choses en groupe. Et on a lancé ça depuis 2015, et ça a eu un succès énorme. Et aujourd'hui, c'est le même parent qui disait autrefois, ah, c'est compliqué, il nous demande de remettre ça. C'est de là l'idée qui est venue de toujours associer un parent à une activité.
Pour une période donnée, ça peut être un an avec un enfant, l'année d'après avec un autre.
Après, les projets qu'on lance, une semaine peut venir un parent, la semaine d'après peut venir un autre, peu importe.
Marcel, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, notamment ici, parce qu'on fait des veilles de proximité, on informe les habitants comme quoi il y a des émissions de radio qui se déroulent ici. Il y a un quota. Il faut à tout prix appeler maintenant, à partir de quand, pour les inscrire, pour s'inscrire.
Alors, les inscriptions sont déjà ouvertes. D'accord. J'avais voulu en fait lancer une première semaine portes ouvertes avant l'été. D'accord. Pour montrer les activités, tout ça. Mais malheureusement, une rattraper en fait le côté trésorerie, on a parlé D'accord. tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que la trésorerie pour les habitants qui nous écoutent ? C'est qu'une association comme la Maison des Familles, en fait, c'est une grosse association. Il y a beaucoup de subventions qui sont accordées par l'État, la ville, la CAF, mais qui ne sont pas données tout de suite. Donc, il y a un reliquat D'accord. qui est donné l'année d'après. Et aujourd'hui, il y a des retards de paiement de la ville. Je vous dis, j'ai 200 000 euros dehors. 200 000 euros dehors.
Aujourd'hui, comme hier, oui. comme toujours, on va dire.
Mais ça s'aggrave. Hein.
Ça s'aggrave, hein, effectivement. Ouais. Et cela a pour effet sur certaines associations, la fermeture de certaines associations. Ouais. Est-ce qu'elles n'arrivent pas à pallier ? Elles n'arrivent pas à payer les salariés, voilà. même si on s'aperçoit que le nombre de salariés dans toutes les associations, maintenant. Que ce soit Sheba, Comité Mamega et toutes les autres, a diminué de façon drastique. Malgré cela, on s'aperçoit donc qu'on constate qu'il y a peut-être une volonté politique non énoncée, mais la réalité est que les associations sont à l'agonie parce qu'elles n'arrivent pas à passer d'un mois à l'autre sans difficulté.
Voilà. Moi, ça m'a stoppé parce que je devais lancer
200 000 euros.
Oui, il y a environ 200 000 euros qui sont dehors dans l'association AGA-MFA. Et là, donc, pour lancer cette cycle d'activité toutes les semaines, vous comprenez bien que je ne peux pas dire aux animateurs qui vont venir,
je vous paye.
Non, parce qu'ils ont des petits salaires aussi, ils ont moins d'être transférés que moi. Ouais. Donc j'ai dû retarder, et donc on va faire le lancement quand même en septembre.
Par rapport à ces activités-là, la priorité, c'est normal, c'est les habitants de Fontvert, la Bonos.
La priorité, c'est les trois territoires que je vous ai dit, donc Picon, Fontvert, Saint-Barthélemy, SNCF et Fontobscur.
D'accord.
Fontobscur. Bénos, c'est dans Fontobscur. Et c'est tout ça. D'accord. C'est tout ça. Donc c'est quand même. Ça représente 2000 habitants.
Ouais. Quel est le budget de la Maison des Familles ?
Alors aujourd'hui, j'ai un budget prévisionnel qu'on a déposé des 660 000 euros. Et on était, en 2015, quand je suis arrivé, à environ 800 000 euros. Ah oui, on a perdu tout ça. Et on a dû en fait diminuer le personnel et tout ça. J'ai des personnes qui ont passé à mi-temps. J'ai perdu 2-3 personnes. On peut plus se le payer. En 2015. Oui. En 2015, en fait, on avait une activité plus florissante, mais on s'est fait rattraper par une baisse de subventions drastique. Les emplois aidés qui ont disparu et qui ont été payés pas pareil en début qu'à la fin. Parce qu'en début, on nous proposait 95% des aides, en fait. Et en fin des mandats, c'était 60%, voire 55%. Donc, les différentiels, c'était pour toi.
Par rapport à cette perte de financement, est-ce que tu ressens l'impact des habitants,
la colère non, pas la colère.
Quel impact cela a eu sur la population ?
Je ne ressens pas la colère parce que les gens... Je pense qu'on a un attachement aux gens. D'accord. Les gens, ils comprennent les choses. Par contre... Ce que je vois, c'est qu'on fait beaucoup moins des choses.
La frustration aussi.
La frustration.
Autant pour les salariés,
pour tout le monde,
pour l'institution que pour la population.
Oui. Et nous, ça nous rajoute aussi le fait qu'on a vécu pendant toute ma période ici, les travaux de la L2. Mais je vous dis, la dernière année, à partir de l'année dernière et jusqu'à présent, quand ils sont ouverts, on va dire, les tunnels, ils ont commencé à travailler. Les dessus de la L2, c'est pire. On est isolé à tel point. Je vous dis, une anecdote toute nouvelle. Hein, je l'ai constaté ce matin. La L2, en fait, ils sont en train de nous mettre en place une nouvelle entrée parce que c'est obligé. Donc, ils sont installés un portillon pour que les gens puissent venir, tout neuf. Hein. Et comme toute cette partie-là est isolée, ces week-ends, ils nous ont volé les portillons récemment installés. Ils l'ont scié.
Ils sont partis avec.
Ils le font parce qu'il a pas de lumière, c'est isolé. Donc
c'est incroyable.
On est complètement isolé. Et c'est pas la première. J'ai eu déjà un autre cambriolage.
Au niveau de la Maison des Familles. Parce que
j'ai installé des caméras de surveillance maintenant.
Oui,
je suis désolé.
Parce qu'il y avait
obligé.
Plus, n'ayant plus la circulation,
mais
la Maison des Familles est devenue un objet de.
Voilà. Et aussi, je sens l'impact aussi. Les gens, ils ont beaucoup de mal à venir. Beaucoup plus de mal à venir.
Oui, par rapport à la mobilité vis-à-vis de la MFA, par rapport aux travaux de la Rocadelle de Nord. Est-ce que les gens ont des difficultés à venir ?
Bien sûr,
ouais.
Bien sûr.
Là,
oui. Et ben, en fait, les problèmes aussi, c'est que l'accessibilité à la maison des familles a changé au moins 10 fois depuis qu'il a les travaux. Donc, il nous change à chaque fois. Évidemment, la communication, on la donne à nous, mais tous les gens qui sont habitués à venir, ils nous appellent, mais comment j'ai fait pour venir ? Ça ne marche plus. Là, je vais passer avant. Donc, il faut expliquer tout ça.
C'est par où maintenant ? Donc,
aujourd'hui, l'entrée principale de la maison de famille, c'est fait par... les terrasses de Merlin, en fait. Il faut venir en contresens de l'avenue Agendé. Et on passe par les chantiers, en fait.
D'accord.
Parce qu'il y a la future voie du bus qui va être sur les tunnels. Il a été, en fait, adapté pour que les véhicules qui viennent à la maison de famille puissent entrer par là. Et très bientôt, on va fermer cette voie-là et on va nous faire passer par l'ancienne avenue Agendé qui va être remise en circulation, qui est pour nous.
Et je me souviens, quand on a eu la première réunion avec Inouk Mongorgé, directeur général de la Rocadelle de Nord, qui nous avait dit « Vous inquiétez pas, ça va être désenclavé ». Tu te souviens ?
Ouh là là, oui.
Voilà. Malheureusement, voilà, quand on voit ça, on se sent quand même trahi.
Ça fait une perte de public aussi. Parce que
c'est terrible. C'est aussi l'impact financier pour nous.
Je vais rajouter aussi le problème de l'aménagement, parce que l'aménagement, ça va poser problème. Il y a les plaines et loisirs qui vont se mettre en place, tout ça. Et là, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Hein, voilà. Jean-Pierre, on va continuer sur les enjeux ou...
Sur les difficultés rencontrées, donc ce que tu as commencé à aborder, en fait.
Voilà, donc les causes de difficultés aujourd'hui, financières. C'est qu'il y a une baisse des subventions qui est importante, donc qui oblige à toute association qui a aujourd'hui un peu d'essence de l'avenir à réduire la voilure. Et à ne développer et que si on est sûr et certain qu'un financement est donné. Donc nous, on a décidé en fait de renforcer les projets historiques et les projets qui fonctionnent à une seule exception, c'est que depuis que je suis là, en fait, je donnais une priorité, c'était la jeunesse à la maison de famille, parce que j'estimais que dans ce type de territoire, et l'éducation de la jeunesse, on ne peut pas faire en fait économie de ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même un secteur jeunesse florissant. J'ai une trentaine de jeunes adolescents qui fréquentent la maison des familles toutes les semaines. Et c'est le groupe le plus important de tout le Grand Saint-Barthélemy. Je suis fier de ça. C'est grâce aussi à un animateur qui est excellent. C'est Saïd Moudini.
Qu'on passe bonjour.
Oui, les familles, en fait. Moi, quand il est arrivé, il lui a donné une mission à Saïd. Saïd, moi, je vais travailler la jeunesse. Je vais te donner beaucoup de liberté si tout fonctionne. Mais je te donne des impératifs. L'un des impératifs, c'était il faut que tu travailles avec les parents. Donc, ben, lui, il a écouté tout ça. Hein. Il a développé à la perfection mes conseils. Et en plus, il est bon dans les terrains.
Et il connaît bien le territoire, en plus.
Il connaît très bien le territoire. Mmh. Mais il m'a monté, en fait, un projet où les parents sont acteurs principaux. Mmh. Donc aujourd'hui, quand un parent a une difficulté avec son fils, on l'appelle. Il est débordé, maintenant. Mmh. Mais il fait un travail exceptionnel grâce à ça. Et je trouve que c'est la clé, en fait. Parce que les enfants qui sont au centre des loisirs et qui viennent aussi au club junior, et ils savent qu'ils sont un point de repère, qu'ils ont des adultes qui se parlent. Donc, ce n'est pas un truc que l'enfant va faire un tour par derrière. Tout l'éducateur, animateur, responsable, référent des jeunes, il est au courant de tout ce qui se passe. Et ça, c'est important parce que c'est de la co-éducation.
Mmh. Bon, on va faire une pause musicale et on se retrouve après. Merci. Merci.
Pas le choix, faut que je me trouve un endroit. La droite, c'est comme ça que je me surnomme moi. Ma maison est portable, mais de portable j'en ai pas. Tombeau souvent, solo des gars me dit comment tu vas. 14h moins le quart, imprimer un coup de barre. Vite, trouver le bon coin à l'abri du blizzard. À part les temps qui courent, c'est vraiment du grand art. De décorer la rue de mon cul de zonard. Sur les bancs publics, les bars en fer, les accoudoirs partout. C'est la mode, mon frère, s'asseoir. sans se faire virer, faut le vouloir. Mais s'allonger un peu, c'est bien la mer à boire. Il y avait une banque qui était idéale pour quêter, pas raqueter, mais juste quêter. Le cœur en paix, c'est décoré maintenant de pointes en acier. Pour qu'on s'efface de nous, ils se sont souciés. Ils ont refait le bord de la grande fontaine où je posais mes fesses en admirant les reines. Des gaines de mort, de porc, c'est ce que les bourgeois craignent. Alors ils se payent des rebonds pour t'asseoir, tu saignes. Arrêtez, anti-mendicité, on cligne les rues, les parcs, les places. Mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher. Arrêtez, anti-mendicité, on cligne les rues, les parcs, les places. Mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher. J'ai fait toute la ville et j'ai pas pu m'asseoir. Même pas une fesse crasse sur un sale trottoir. On a décidé de mon sort dans l'isoloir. Les demi-morts font peur, on ne veut plus les voir. Dans toutes les villes idem, les vilaines s'équipent. Refont leur centre-ville avec de sombres tactiques. Architecture nouvelle et savante technique. Appelle sa optimisation, les critères esthétiques. Avec des potos clodons, appelle-nous pauvres ou poivrons. On posait nos sacs tatis sous un genre de préau. Il y avait trois marches de haut et moins de vente, ça vaut cher. Quand ta chair est comme sortie d'un frigo, les colons se couèrent. Un matin, ils l'ont grillagé. Cinquième fois dans le mois que mon adresse a changé. Encore un repère grillé, un luxe pour nous gâcher, nous cacher. Pour ça, les sous, ils vont les lâcher. Arrêtez, anti-mendicité, on cligne les rues, les parcs, les places. Mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher. Arrêtez, anti-mendicité, on cligne les rues, les parcs, les places. Mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher. Mais ça défend sage qu'on s'en prend au SDF. Bientôt défunt sur d'autres trottoirs. Bref, trois lignes dans les dos et rien dans les dito pour vous consoler. C'est les soldes bientôt 2003. Et plus ça, plus les help, plus les coups sont bas. Basse température, fracture, le mauvais coin suppure. C'est moi l'appelé qui ne peut plus appeler au secours. Comme ce squat, tu crois qu'ils auraient fait un foyer. Enfin, ils en ont fait un de flammes gaziers. Pas pour nous brûler, mais pour tout machiner. Que des fils de riches viennent s'y déguiser. Là-bas, souvent, je dis avec un sans-papier qui me parlait de son pays ensoleillé, où la misère déborde, fait partie du décor, où l'on ne te ramasse que quand tu es mort. Les aisés ne veulent des lésés que s'ils sont parqués dans le quartier d'à côté, la ville d'à côté ou le pays d'à côté. Et les clans d'eau à pied se font des points de côté. L'Europe est comme fortifiée, on ferme toutes les frontières, mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher. Arrêtez, anti-mendicité, on cligne les rues, les parcs, les places. Mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher. Arrêtez, anti-mendicité, on cligne les rues, les parcs, les places. Mais la misère ne peut se cacher. La misère ne peut se cacher.
Toujours au sein du comité Maméga, les échos de la Busserine, réalisés et produits par le comité Maméga et Radio Galère. Aujourd'hui, un coup de projecteur à la Maison des Familles et notamment à Marcelo Schiaparo, directeur de la MFA, malheureusement qui va nous quitter la fin du mois. Et j'ai la chance de co-animer l'émission de radio avec mon binôme Jean-Pierre Ega. Jean-Pierre, je te laisse la parole.
Alors, en résumé, est-ce que, combien de familles vous touchez et combien d'individus ?
Alors, en termes des familles, les adhésions de l'année 2018, on arrivait à environ 250 familles qui doivent représenter environ entre 600 et 700 individus. Quand on avait les salles, on avait des chiffres de folie parce qu'on arrivait parfois à 30 000 personnes. Parce qu'on comptait en fait à chaque fois 80 ou 150 personnes qui venaient. Mais ça drainait beaucoup de monde en fait.
Alors malgré votre enclavement, au niveau des quelles sont vos actions et quels sont vos partenaires à ce jour au niveau du territoire ?
Alors au niveau des actions, je vais parler des actions les plus importantes. On a un secteur senior qui est très important, qui est historique aussi à la Maison des Familles. Qui chaque année, on fait en fait un forum senior hein, et on le transmet en direct avec la Radio Galère. Et cette année, ça va être le 3 octobre.
Ça sera pour le 3 octobre.
Ouais. Et ces groupes seniors, par contre, c'est un groupe qui se réunit toutes les semaines. Et ils font du sport, ils font des activités, des loisirs, ils font des sorties. Chaque année, il y a un voyage qui est autofinancé en plus. et ils font des travaux avec des diététiciens, et on travaille là le diabète aussi, le dépistage, etc. Il y a plein
sophrologie, un peu de tout.
Il y a tout un programme en fait avec le groupe et environ 30 seniors participent de façon régulière.
Oh.
Alors, on avait eu des hommes, des maris qui malheureusement sont décédés et depuis on n'a pas renouvelé, on n'a pas. Mais le groupe n'est pas fermé. C'est des personnes âgées. Hein.
On remercie AG2R la 2000. Hein.
AG2R la mondiale.
Et un partenaire que j'ai privilégié, c'est Sheba aussi.
Ah, voilà. Ouais. Je vais en parler après des partenaires. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai D'accord. peur d'oublier, mais D'accord. il y en a beaucoup.
D'accord.
Mais en termes d'activité aussi, et donc je parle de cette activité importante, on a donc le secteur enfance jeunesse aussi. On a comme tous les centres sociaux, des centres loisirs et un centre en accueil des jeunes adolescents. Nous, on a une particularité, on a un accueil du soir, les vendredis, et qui, en fait, a vraiment une belle activité. Et ils font en plus des activités très sociales, parce qu'ils vont les soirs parfois donner à manger aux sans-abri à Marseille, avec une autre association. Franchement, c'est des belles actions qu'ils mettent en place. On a aussi les projets qu'on appelle environnement. Ces projets environnement, en fait, concernent certes des jardins potagers, donc on a 40 parcelles pour des familles à fond vert, et c'est vraiment une merveille. Je vous invite vous promener.
On va rester sur cette thématique-là, jardin potager, partagé aussi. Hein.
Oui, oui.
Par rapport à ça, le fait que tu nous avais dit moins de financement, comment ça se déroule par rapport à ça?
Justement, parce que je vous dis, on a 40 parcelles à fond vert, et une parcelle en fait collective à la cité SNCF. Donc on a aujourd'hui la gestion des deux ensembles des jardins potagers.
Ça représente combien au niveau
des personnes?
Mètres carrés.
Alors à fond vert, il faut imaginer 40 parcelles. Chacune des parcelles doit faire 20 mètres carrés.
Ah, quand même, hein.
Donc c'est beaucoup. Et la parcelle qu'on a, c'est 300 mètres carrés à la cité SNCF. Et tout ça, ça représente environ 60 familles.
Ah oui, 60 familles, c'est énorme.
C'est énorme. Et après, il a une belle production. Hein. C'est, franchement, je vous invite, moi je suis toujours en admiration, parce que moi, je le dis tout petit, hein, pour les gens qui ne le coûtent pas trop, je n'ai pas la main verte. Hein. Avec ma femme, nous, plante qu'on essaye de faire pousser, on la tue. Hein. On est des tueurs en série.
Dis aux auditeurs, pour ceux qui veulent contacter la MFA, au 04 91 02 35 voilà. 75.
Numéro depuis le début de la création dans les familles.
Exactement. Oui.
On a aussi en fait un projet environnement qui va au-delà des jardins potagers, parce qu'on a mis en place des ruches d'abeilles. On a un projet avec des ruches. On a formé même les habitants. J'ai mis en place une formation pour devenir apiculteur. Et aujourd'hui, on travaille avec l'école des fronts verts. Donc, l'un des projets qu'on avait depuis le début, c'était d'initier et de sensibiliser les enfants de la cité pour qu'ils aiment les jardins, qu'ils ne viennent pas jouer dedans, qu'ils ne les détruisent pas, en fait.
Et que faites-vous avec les productions, en fait? C'est pour les familles?
C'est les familles. Non, non.
Ça ne se vend pas.
Ça ne se vend pas.
D'accord.
C'est pour que les familles... Ils mangent, souvent, ils mangent tout ça. Ils se donnent entre eux aussi. Mais il n'y a pas de la vente.
Est-ce qu'il y a de la prévention autour de ce projet?
Tout à fait.
Parce qu'on en parle beaucoup actuellement de la disparition des abeilles.
Tout à fait. Voilà. Mais c'est justement les projets. Chaque année, on fait des ateliers avec des classes de l'école des fonds verts. Donc cette année, on a eu 3 classes ou 4 classes qui ont participé. On fait des ateliers avec l'association BZ, c'est l'un de nos partenaires. Donc on montre la production du miel et chaque élève part avec son petit pot de miel à la fin. Et nous, nos ruches sont des ruches pédagogiques avec des vitres, donc on peut ouvrir sans déranger les abeilles et venir voir comment ça vit, comment ça s'est produit. Et en plus, ces abeilles-là sont là pour polliniser aussi les jardins. Donc c'est un double coup. Et donc c'est là un très beau projet qui est conduit par un administrateur de la maison des familles, c'est Maurice.
Maurice Pouletta?
Non.
Non.
C'est...
Que je connais.
Oh, j'ai oublié son nom, il va me tuer si je ne dis pas son nom.
C'est pas grave,
Maurice Mounier. Ah, ouf. C'est Maurice Mounier qui a été en fait un grand ami de M. Pichot. Et qui est au décès de M. Pichot, il a été missionné par le conseil d'administration pour mener à bien quand même le projet, parce que sans les directeurs, c'était compliqué. Et lui, il a été l'architecte de nos jardins et du projet environnement de la MFA. Il est toujours là.
Jean-Pierre, tu veux prendre la parole? Je vais juste pour ajouter par rapport à, au jardin partagé, le fait qu'il y a de moins, il y a plus petit, il est plus petit.
On a un autre jardinier.
Voilà, un autre jardinier. Comment ça se déroule avec les habitants? Est-ce que c'est eux-mêmes qui vont tous les matins? Comment
c'est eux-mêmes. Voilà. En fait, il y a un truc extraordinaire de ces projets, parce que personne n'y croyait. Et à quelque part, moi, j'avais aussi quelques réticences quand je suis arrivé ici.
Excuse-moi, Marcel, est-ce que les jeunes respectent un petit peu?
Mais oui, voilà. Mais c'est ça qui est incroyable, en fait. Quand j'ai vu l'ampleur du projet, parce que ce n'était pas un petit jardin, c'était 40 parcelles.
Et où se trouvent ces jardins?
Partout autour de Fontvert, il y en a 3 endroits, 4 endroits différents.
Parce que moi, je traverse parfois Fontvert rapidement.
Ah non, et en voiture, je ne les vois pas. Non.
Voilà,
il faut marcher un peu. Ouais. Moi, je peux vous t'inviter, te montrer. Ouais. Et donc, au départ, j'imaginais qu'on va avoir beaucoup de conflits entre habitants pour la production, machin. Zéro conflit, je vous assure. C'est un projet qui fonctionne parce qu'il est tout seul. On a intervenu quelques fois. On a créé, certes, une dynamique. Et on est là pour encadrer. Mais il n'y a pas de problématique. Aucune dégradation. Une fois, on a eu on avait mis les cabanes en bois pour les outils. Il y a une cabane qui a brûlé. Je me suis dit, dis donc, ça commence, c'est la dégradation. Et en fait, non. Ça a été vraiment un accident parce que ça a pris feu par accident. Mais pas de dégradation. Et aujourd'hui, les familles, en fait, si vous venez, même un samedi ou un dimanche, j'ai plein de plaisir à sortir tous. Et la production, c'est ça. Les jardins sont extraordinaires, en fait.
À quand la ferme pédagogique avec les poules, les canards?
On y a pensé parce qu'il y a des poules à fond vert. Et ce n'est pas partie de notre projet. Hein. C'est un habitant, parce que c'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est que ce projet des jardins, qui est encadré par nous, a fait des petits. Donc, il y a plein d'autres jardins, entre guillemets, sauvages, entre guillemets, parce qu'ils sont aussi bien que ceux qu'on fait nous, donc ils sont très bien rangés. Mais il y a un autre habitant...
Ce sont des squats?
Des squats, oui.
Des squats végétaux, c'est végétaux. Bien ça.
Mais c'est bien géré, c'est magnifique. Et souvent, ils nettoient là où ils mettent les jardins. Par contre, il y a une espèce de ferme, parce qu'il y a des gens qui ont mis des poules et tout ça. Ça mériterait en fait un projet plus élaboré. On en a parlé avec le GIREM. Nous, on était prêts à aller vers une ferme pédagogique. Mais évidemment, je dis, on y va si on finance.
Bien sûr.
Ils ne sont
bien
pas financés, je ne suis pas allé. Hein.
Bien sûr.
Par contre,
ça fait partie des projets magnifiques de la MFA.
Jardin partagé, qui c'est qui participe? C'est des papas, c'est des mamans?
Papa, maman, même jeunes. Des jardins qui sont tenus par des jeunes.
Ah ben super.
Il y a tout. Et même il y a des jardins que nous, on travaille avec l'école. Et il y a des jardins qui sont travaillés aussi avec des associations. Il y a tout.
Donc ceci nous donne quand même une note d'espoir, malgré le manque, la baisse de financement drastique. Vous avez réussi à vous...
Tout à fait.
Vous recréer, vous reconstruire. Et quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans ces missions-là?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats. Hein. Et la maison de famille, en fait, notre ADN, c'est de travailler avec. Donc déjà, dans les Grands Saint-Barthélemy, on travaille avec tous les partenaires. Donc, on a parlé de Sheva. Sheva, c'est un partenaire historique de la maison de famille, notamment pour les projets des seniors et les forums seniors. Mamega, avec vous, on est toujours ensemble. Hein. Dès qu'il y a des choses à faire ensemble, on le fait. Les centres sociaux, Agora, c'est un partenaire aussi. On est voisins. On n'a jamais été en concurrence, en tout cas depuis que je suis là, jamais en concurrence. Au contraire, toujours en aide. Et on a évidemment Flammairis, mais Flammairis, c'est une particularité, parce que Flammairis, c'est mon frère. C'est-à-dire que l'association AGA-MFA gère la maison des familles et gère aussi Flammairis. Donc avec Daniel, qui est le directeur de Flammairis, on travaille beaucoup de dossiers ensemble, même si chacun est directeur indépendant et autonome de son structure.
D'accord.
Et après, on a d'autres partenaires, hein, parce que je vous dis, on a l'ADAP, il y a les médiateurs aujourd'hui, c'est Adélie qui est présente, il y a toutes les associations de proximité des fonds verts, et là, j'espère ne pas oublier, parce que là aussi...
Le collectif.
Les collectifs, mais comme je vous disais, il y a les deux colombes, il y a...
Femmes, familles, fonds verts.
Femmes, familles, fonds verts.
La CLCV.
La CLCV.
Voilà,
l'association Lina. Il y a Féminin Sacré.
Exactement.
Il y a l'Alliance Savinoise. Il y a tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on a aidé aussi au montage une nouvelle association qui des locataires de la cité SNCF. Ça se structure aussi.
D'accord.
Et là aussi, je coordonne avec les acteurs qui travaillent, donc art et développement, et adapterait ce médiation. Et on avait aussi d'autres, tous les intervenants en fait, qui viennent faire de l'activité associative et culturelle.
Adélice aussi.
Adélice, voilà. On fait des réunions de pilotage. Et là, j'essaie d'impliquer aussi les habitants pour la prochaine fête des quartiers de la cité SNCF. On a des habitants qui vont prendre en charge les choses.
Malgré ce tableau idyllique, j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait quand même de grosses difficultés, une grosse charge de travail pour toi et peut-être ton équipe.
Évidemment.
Et que ton départ, et à quoi est lié ton départ? Est-ce qu'il est lié aussi à cette surcharge? C'est-à-dire faire de l'or avec rien ou
Alors, j'essaie d'être positif, hein, parce qu'en fait, c'est mon rôle quand même. Je suis directeur, je serai directeur jusqu'au dernier jour que je reste à la mission de famille. Et je ne veux pas partir avec une tonalité négative. Mais il est vrai que je vous ai dit au départ que je me sens tout petit ici, parce que je suis entouré des partenaires qui sont militants, qui ont une militance très forte. Je pense à vous, Maméga, à d'autres directeurs. Et il faut quand même faire face à des difficultés financières. Il faut faire face aussi à des pressions politiques, hein, de tout type. Hein. Je ne parle pas d'un côté, parce que c'est des pressions de tout type. De tout type, hein. Et je ne me sens pas, en fait, avec les épaules pour ça. Et donc, ça fait plus de 25 ans que je fais du travail social en France. Hein. Je vous ai dit, j'ai passé par tous les postes. Et je suis arrivé à un moment de ma vie, et je me suis dit... Quand tu te sens des limites, et tu te dis, si tu tires la corde plus loin, tu vas peut-être faire des bêtises. Parce qu'il faut rester dans ce type de poste neutre. Il faut rester aussi, quelque part, apaisé.
Et disponible.
Disponible, et je veux dire, en fait, diplomate. Et je sens que ma limite arrive à terme, là. Et pour le bien de l'association, je ne peux pas rester.
En même
donc
temps,
j'ai décidé de partir pour ça.
Effectivement, je te comprends. C'est vrai que c'est quand on prend de l'âge aussi, on se dit qu'il faut savoir écouter son corps.
Exact.
Et voilà, je comprends. En tant que directeur, c'est vrai que gérer tout ça, ce n'est pas évident. On te comprend.
C'est très, très difficile. Mmh. Oui.
Marcelo, on va continuer sur la situation actuelle.
Terminé sur,
voilà,
plutôt terminé, les perspectives.
Ouais, voilà, ouais. Perspective. En perspective, qu'est-ce qu'il va avoir?
Alors, là, en perspective... L'un des projets aussi qui fonctionne bien aussi chez nous, je vais le citer et après je vais parler de l'avenir, c'est tout ce qui touche en fait l'accompagnement de la parentalité. Et on a des accompagnements à la scolarité, on a des groupes avec des familles aussi, avec une ACF qui aujourd'hui est à mi-temps, avant était à plein temps. Mais il y a plein de projets autour de l'accompagnement à la scolarité, accompagnement à la parentalité qu'on met en place, notamment avec l'école de Fonds Vert. Alors, pour l'avenir, et les nouveautés pour l'avenir, évidemment, on va toujours continuer avec cette politique d'accompagnement de la jeunesse. Je pense que c'est un ADN de la maison de famille qu'on ne va pas lâcher. On va continuer aussi à développer les secteurs enfance dans la maison de famille et les secteurs seniors, donc, ainsi que les familles. Donc, l'historique d'une famille est présente, de la petite enfance, jusqu'à la mamie qui a 99 ans. Donc tout le monde a sa place. Il y a des activités pour ce sujet-là à la maison des familles. La grande nouveauté, et là je le dis, ce n'est pas simplement pour notre zone d'action de vie sociale, on va dire, comme je disais, Picon, Fonds Vert, Cité SNCF et Fonds Obscur, mais va au-delà. Donc j'invite à tout le monde, on peut dépasser cette frontière sans aucun problème. Donc on va lancer un projet d'animation tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, en soirée, donc en périscolaire, et les après-midi des 14h à 17h le samedi, avec divers ateliers. Il y a déjà toute une gamme qui sont programmées. Des têtes, hein, j'espère ne pas oublier, je vous avais déjà dit, donc il y a des ateliers de danse pour adultes et danse aussi par enfants.
D'accord.
Danse moderne. Il y a des ateliers éveil à la danse et à la musique pour les tout-petits, à partir de 2-3 ans, maman, avec la maman ou le papa. Il y a des ateliers cirque qui vont avoir lieu le samedi, parents-enfants ou enfants seuls, c'est les deux. Il y aura aussi des ateliers de sophrologie yoga pour les adultes et aussi parents-enfants.
D'accord.
Il y a en fait des programmes où on peut faire des yoga d'adultes, des sessions en fait. Donc l'enfant vient avec son parent, il y a ces exercices qui sont faits par des professionnels. Hein. En fait, j'ai monté une équipe d'artistes et professionnels, et avec des associations culturelles qui sont toutes faites avec des cartes de professionnels pour monter ces ateliers-là. Il y aura aussi du théâtre, parce que j'y tiens beaucoup à l'expression artistique, donc j'ai cherché des ateliers un peu innovants, donc il y aura un atelier des marionnettes, où les participants vont fabriquer des marionnettes et on va créer un spectacle qui sera donné en fin d'année avec des textes et de l'environnement avec une créatrice en fait professionnelle.
D'accord.
Et il y aura aussi un atelier des ombres chinoises, même principe, explication, atelier des créations et atelier des créations artistiques. L'année d'après, en fait, on va voir comment tout ça va évoluer. Il y aura aussi, en fait, à partir de septembre, j'avais oublié, c'est important, parce que c'est des artistes de Grand Saint-Barthélemy qui vont faire ça.
D'accord.
Un atelier musique et chant, et avec des percussions africaines. Et qui, avec, je ne me souviens plus maintenant comment elle s'appelle, l'association, mais c'est une association du Grand Saint-Barthélemy, hein, qui est connue ici. Donc j'ai cherché, en fait. Je crois, il y aura que ça, oui.
Mohamed
Hadi.
Oui. Radi, je crois,
ouais, c'est
Radi,
ça.
Oui.
Ouais.
Parce que j'ai cherché en fait des gens aussi d'ici, je voulais pas. Voilà. Et donc il y aura de l'animation. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Et on est en train de programmer ça à la rentrée, donc à la rentrée scolaire 2019, donc en septembre, il y aura une semaine porte ouverte avec un spectacle un samedi qui va déclencher une semaine et les gens vont pouvoir venir sans payer tester une semaine.
D'accord.
Et après, il aura des tarifs. Ce n'est pas gratuit, malheureusement, mais il y a des prix qui sont tout à fait... Ah, d'autres choses aussi, il y aura de l'anglais et des jeux d'échecs. En
fait. Et il faut rajouter des permanences aussi juridiques,
alors,
administratives.
Alors, ça, c'est tout ce qu'on a toujours. Voilà. On a d'actualité. Une permanence juridique tous les 15 jours avec l'association ASMAJ.
Voilà.
Il y aura une permanence nouvelle avec la sauvegarde de l'enfance pour un public handicapé. Il y aura une permanence AMO avec les éducateurs. Il y a une permanence, en fait, sous rendez-vous pour aider à monter des dossiers administratifs avec l'association... Ah, j'ai oublié son nom. C'est notre partenaire, en fait. Mais bon, tout ça, il faut poser des questions, venir. Sinon, je vous donne... Allez visiter notre site internet. C'est tout simple. Vous tapez http... et au www.mfa1314.fr.
D'accord.
Et vous allez avoir un peu tout la
activité. Et éventuellement, pour ceux qui l'ont oublié, on vous redonnera le numéro de téléphone en fin d'émission et vous pourrez contacter la MFA.
Voilà, je vous répète en fait le site internet, c'est www.mfa1314.fr.
Voilà. Jean-Pierre, un dernier mot avant que je prenne la parole.
Je crois que tout a été dit.
Voilà. Ben, en tout cas, Marcelo, je tiens à te dire au nom du comité Mamega, de toute l'équipe du comité Mamega, hein, du président jusqu'aux salariés, merci et merci d'avoir participé avec nous tout au long de ces années-là, avec nous, dans le cadre du travail que tu as mené, du partenariat, des projets qu'on a montés ensemble et tout. On tient à vraiment te remercier et on te dira...
Bonne continuation.
Bonne continuation et bonne route pour la suite. Et merci d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir été fidèles jusqu'à la fin. Quoi.
Voilà. Écoutez, moi, je vous remercie aussi. Je vous dis, je me sens tout petit vis-à-vis de vous. Hein. Vous êtes des gens extraordinaires.
Merci.
Franchement, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs sociaux dans ma vie professionnelle, mais rarement de la qualité des gens d'ici, de Grand Saint-Barthélemy.
On te remercie. Pareil.
Franchement, merci à vous.
Pareil pour toi.
Merci.
En tout cas...
Et merci Radio Galère aussi, parce que... Ils ont été toujours fidèles et à chaque fois on a fait des choses géniales. J'apprécie beaucoup aussi de travailler avec vous.
88,
juste
88,
avant de nous quitter, deux numéros de téléphone pour contacter la MFA, le 04 91 02 35 75 pour plus d'informations, si vous voulez inscrire vos enfants, si vous voilà pour des permanences juridiques, voilà pour toute autre activité.
Pour tout renseignement.
Voilà, et un numéro de téléphone du comité Mamega au 09 54 38 87 44 et vous pouvez aller sur notre site, le site du vivreensemble.org.
www.vivreensemble.org.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain. Merci à vous. À bientôt.